Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Les Landes et du Ciel, émission proposée par l'Astro Club du Marsan pour vous faire découvrir notre univers. Je me présente Yves De Angeli et pour m'accompagner aujourd'hui, Michel Dauphin, membre de l'Astro Club du Marsan.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous parlerons des techniques et des matériels qui permettent aux professionnels, mais également aux amateurs, d'explorer notre univers. Nous avons vu dans le dernier épisode que les anciens avaient déjà scruté le ciel, mais les limites de l'œil humain empêchaient d'aller voir un peu plus loin. Il a fallu attendre Galilée en 1610 pour donner plus de profondeur à notre ciel. Un opticien hollandais, Hans Lippershey, avait créé une longue vue qui grossissait jusqu'à 7 fois, mais avec des énormes aberrations. C'est-à-dire que ce n'était net à peu près qu'au centre de la lunette. Galilée récupéra cette invention, la modifia et réussit à faire des grossissements allant jusqu'à 30 fois. Il fit une démonstration de son instrument au Sénat de Venise, au sommet du Campanile de la place Saint-Marc, et réussit à prouver qu'on pouvait effectivement, à partir de cette petite lunette marine, grossir les objets de notre ciel. Mais les lentilles étaient vraiment construites de manière artisanale, et il était compliqué d'avoir des optiques de qualité. Donc il en a construit beaucoup, 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 et beaucoup ont été inexploitables, il a fallu les jeter. Mais ça a permis quand même à Galilée d'observer les satellites de Jupiter, qu'on nomme maintenant les satellites médicéens, en remerciement à Cosme II de Médicis qui le finançait et qui l'aidait dans ses recherches. Il a découvert également les phases de Vénus, il a exploré la Lune, la surface de la Lune. Donc c'était les premières observations, on va dire, un petit peu plus sérieuses qui se sont passées.
Et de quoi était composé cet instrument alors ?
C'était un instrument complètement basique. C'était deux petits tubes en carton qui coulissaient les uns dans les autres. Il y en avait une lentille biconvexe, c'est-à-dire qu'elle était ronde, elle était bosselée de deux côtés, et puis une lentille plan concave qui était creusée. Et ces deux petites lentilles permettaient de grossir et d'amener la lumière sur l'œil en fait de l'observateur. C'est un peu le même principe qu'on voit sur les loupes, par exemple. Une loupe, vous mettez une loupe avec le soleil qui éclaire, on arrive à concentrer en un point la lumière qui arrive du soleil. Donc il va réutiliser ce mode de fonctionnement, mais malheureusement Galilée n'avait pas de compétences, d'exceptionnelles compétences en optique. L'optique était à ses débuts et lui ne maîtrisait pas tout ça, donc c'était vraiment c'était des essais. Il tentait des mélanges, il tentait des différentes lentilles, et puis il y en a certaines qui marchaient et d'autres non. Alors, en suivant, on s'est dit, si la lentille peut collecter beaucoup de lumière, peut-être que nous, on pourrait, en agrandissant ces lentilles, réussir à avoir vraiment une vision encore plus importante, un grossissement plus important. Donc on a commencé à construire des lentilles de plus en plus grandes, mais il y a un gros problème qui arrive. La plus grosse lentille qui a été construite, c'était pour l'exposition universelle à Paris en 1900, elle faisait 1,25 m de diamètre. Donc à ces dimensions-là, le poids est tellement important que le verre par lui-même en fait, se déforme et n'arrive pas à se tenir dans la bonne position. Donc il y avait trop de distorsions optiques et c'était irréalisable de continuer comme ça.
Mais aujourd'hui, on parle de lunettes, mais aussi de télescopes.
Exactement, puisque étant donné qu'on s'est rendu compte rapidement que les lentilles ne pouvaient plus être... on arrivait à la limite technique de ce qu'on avait pour les lentilles, on ne peut pas faire beaucoup plus grand. Si on voulait avoir des instruments plus grands, il fallait trouver notre solution. Et cette solution, elle était trouvée par Newton. Newton qui a exploré un petit peu la lumière, qui lui avait des meilleures connaissances en optique sur la décomposition de la lumière et sur le trajet optique de la lumière. Et donc Newton, il s'est dit, plutôt que de faire des lentilles, si on mettait des miroirs, ça pourrait le faire. Donc il a créé un petit télescope avec un miroir primaire qui est sphérique et puis un petit miroir plan au-dessus qui renvoyait la lumière en direction de l'œil d'observateur. Et ça marchait bien et c'était très efficace.
Il n'y a plus de limite de diamètre alors ?
À ce moment-là, non, puisque on a commencé à grossir de plus en plus, mais pareil, on va arriver à une limite, c'est-à-dire que le miroir, c'est une lentille de verre, c'est une plaque de verre qu'on va venir tailler. Et plus notre diamètre est grand, plus le miroir doit être épais. Et donc on arrivait sur des poids qui devenaient... c'était surdimensionné, on arrivait à des... pour le télescope Hale, par exemple, d'1,50 m de diamètre, qui faisait 20 cm d'épaisseur, il pesait 850 kg, 860 kg. Donc ce qui fait qu'il fallait, pour tenir ce miroir, il fallait des infrastructures énormément lourdes autour. Et donc on arrive rapidement sur des observatoires qui deviennent des grosses machines avec vraiment des besoins importants en infrastructure.
Au fond, quel est l'intérêt de cette course au gigantisme ?
Plus on a un capteur de lumière qui est grand, plus on a de lumière qui arrive, et donc ce sera plus facile à pouvoir détecter des objets qui sont faiblement lumineux dans le ciel. Donc on va essayer d'aller au maximum de ce qu'on peut voir, en essayant à chaque fois de grossir un peu plus notre instrument. Mais on se rend vite compte qu'on arrive sur les limites où le miroir, il ne se tient plus lui-même, il peut se casser. Donc l'idée, ça va être de faire, plutôt que de faire un seul grand miroir, on va découper ça en plein de petits miroirs qu'on va assembler. Ça permettra d'avoir des masses qui sont moins élevées et des infrastructures qui sont beaucoup plus faciles à réaliser. Quand on prend par exemple les télescopes Keck du Manoukea, ils font 10 mètres de diamètre, ils ont découpé en 36 petits bouts.
Moi, j'ai entendu parler des optiques adaptatives. De quoi s'agit-il ?
Alors, l'optique adaptative, rapidement, on s'est rendu compte que l'atmosphère, elle était pas stable. Il y avait toujours du vent, il peut y avoir de la poussière dans l'atmosphère. Et donc, les images, en fonction des conditions météo, l'image qu'on recevait sur les télescopes n'était pas bonne. Et il y avait des turbulences, il y avait des mouvements en fait, qui étaient faits là-dessus. Donc la première idée, ça a été de se dire, on va aller le plus haut possible. Donc c'est ce qui est fait maintenant. Les grands télescopes sont tous au sommet de collines, à Hawaï, aux Canaries, au Chili. C'est vraiment au sommet. Pourquoi au sommet ? Parce qu'on a moins d'épaisseur d'atmosphère, donc on a moins de risque d'avoir effectivement des turbulences. Et donc, on essaie d'aller le plus haut possible, mais on a quand même cette limite-là qui fait que même là-haut, on a besoin aussi d'éviter les problèmes de l'atmosphère. Et pour contrer ça, y a une solution qui est, on va dire, relativement simple. Ça va être de récupérer un petit peu de l'image qui est récupérée par le télescope. Et puis regarder si l'onde, quand elle arrive, elle était perturbée. Eh bien, on va créer, en prélevant cette onde qui était perturbée, on va créer une onde contraire. Et on va pouvoir, à partir de là, à l'aide de matériel informatique, redresser l'onde et avoir une onde qui est vraiment complètement lisse et complètement naturelle. Et tout ça, ça n'est possible que parce que maintenant, on a des miroirs qui sont très fins. Et sur des miroirs très fins, on peut tout à fait le déformer avec des vérins et lui faire changer sa forme pour corriger l'image qui arrive.
Alors c'est bien tout ça, mais on entend aussi parler de télescope infrarouge.
Effectivement, parce que l'infrarouge, c'est un élément important quand on le verra dans la prochaine émission, on parlera un petit peu des étoiles, on parlera comment elles sont créées. L'infrarouge, on a découvert un petit peu ces rayonnements. Au début, on pensait que tout ce qui nous arrivait, c'était uniquement de la lumière visible. Et avec la découverte de Marie Curie sur la radioactivité, sur la meilleure compréhension en fait, des rayonnements qui se faisaient, on s'est dit que peut-être qu'il y a de la lumière, il n'y a pas que de la lumière, il y a autre chose à côté. Alors, il y avait des rayonnements résiduels, justement dans ces laboratoires, il n'y avait pas de source radioactive, il y avait des rayonnements résiduels qui étaient présents, qui flashaient en fait les plaques d'essai. Donc ils se sont dit, ça doit venir de la Terre, il n'y a pas de problème. Et il y a un scientifique, le baron Victor Hess, qui en 1912, il s'est dit que peut-être c'était pas ça. Pour le prouver, il prend des capteurs, il les met dans un ballon, et dans la théorie, si ça vient du sol, en montant en altitude, le rayonnement devrait diminuer. Et bien lui, il s'est rendu compte qu'au contraire, plus il montait, plus le rayonnement augmentait. Ça voulait dire que c'était un rayonnement qui venait de l'espace. Et c'est là qu'est née un petit peu l'idée du rayonnement cosmique, que tout ce qui est autour, à l'extérieur de nous, ça rayonne. Donc on a commencé pareil à mettre des détecteurs en haute altitude. On était jusqu'à 5000 mètres en Bolivie pour construire des détecteurs, pour essayer de voir ce rayonnement. Mais on se retrouvait pareil avec la problématique de l'atmosphère qui ne laissait pas tout passer. Et donc l'idée, on est presque à la période où on a la conquête spatiale, on a Spoutnik, les premières fusées ont été tirées, on a en capacité de mettre des satellites. Donc les satellites vont petit à petit être équipés de ces détecteurs pour aller mesurer au-delà de l'atmosphère qu'est-ce qui se passe. Donc on s'est vite rendu compte qu'il n'y a pas que uniquement le rayonnement de la lumière. Quand on a mis tous ces détecteurs, on s'est rendu compte qu'on avait du rayonnement X, on avait du rayonnement gamma, on avait des ondes radio, on avait des ultraviolets, on avait des infrarouges. On avait tous ces rayonnements-là qui étaient présents là-haut. Et au sol, il nous restait simplement le rayonnement de la lumière visible, un peu d'UV et les ondes radio. Mais tout le reste était vraiment arrêté par l'atmosphère ou alors atténué complètement par l'atmosphère. Ce qui faisait qu'on ne pouvait pas exploiter vraiment le rayonnement qui venait des objets. Donc on a envoyé au début des petits satellites et après, au fur et à mesure, on a envoyé des télescopes. Donc si on liste un petit peu les télescopes qui existent, on a pour les rayons gamma, on a Swift, pour les rayons X, on a Newton. Pour les UV, on a Hubble, le fameux Hubble. Galex, pour le visible, on a aussi Hubble, Kepler, Gaïa, etc., etc. Et l'infrarouge, on a le dernier qui a été lancé, donc James Webb, qui lui travaille principalement dans l'infrarouge. On aura l'occasion d'expliquer ça sur une autre émission. Et les autres rayonnements, on a Planck qui fait le petit rayonnement millimétrique, on a des radiotélescopes qui permettent un petit peu de tout mesurer. Et vraiment l'intérêt d'avoir toute cette flotte qui est spécifique à chacun des types de rayonnements, c'est que si tous ces télescopes regardent ensemble le même objet, eh bien on a différentes images du même objet et on peut mieux comprendre le fonctionnement de l'objet. Il n'y a pas que la lumière visible qui est intéressante.
Avec tout ce rayonnement, finalement, on est obligé d'envoyer encore plus de télescopes spatiaux, là. Est-ce qu'il reste encore de la place, là-haut ?
Bon, il y a un petit peu de monde, là-haut, mais... il y a de la place encore, il y a encore de la place. Mais chaque télescope, en même temps qu'il a son rôle principal, il emmène des capteurs sur les autres spectres de fréquences. Et donc, c'est un peu multitâche, mais on peut travailler avec les multiples télescopes qui sont en l'air. Mais parallèlement à ça, au sol, on a développé ce qu'on appelle l'interférométrie. Alors l'interférométrie, ça permet de pouvoir coupler plusieurs télescopes entre eux, les faire regarder la même source. Et avec la loi physique de l'optique, en couplant plusieurs télescopes, on fait un énorme télescope, on fait un grand, grand télescope. Donc par exemple, c'est ce qu'on a dans le désert d'Atacama au Chili. Le VLT, qui est très connu, c'est 4 miroirs de 8 mètres, 8 mètres 20, plus 4 autres petits miroirs d'1 mètre 80. Et quand on couple les 4 grands miroirs, c'est l'équivalent d'un télescope qui ferait 200 mètres. Après avoir présenté les instruments utilisés par les astronomes professionnels, maintenant nous allons voir les instruments que tout un chacun peut posséder pour explorer le ciel. Avant de choisir un instrument, il est important de savoir ce que l'on veut faire avec. Parce qu'on va vite se rendre compte que chaque type d'instrument est spécifique, avec des points forts et des points faibles. Et donc, il y a également la question du prix. Un instrument, dès qu'on commence à vouloir un instrument un petit peu imposant, de suite, les prix s'envolent un petit peu. Donc, il faut vraiment bien cibler ce qu'on attend. Et puis, en plus, c'est bientôt Noël. Donc, On va vous aider un petit peu à vous guider dans l'achat d'un télescope ou d'un instrument pour éviter qu'il termine sa vie dans un coin du garage ou dans une véranda à prendre la poussière.
Mais c'est vrai, mais comment on fait pour se faire plaisir? Moi, j'ai regardé un peu toutes les offres, là, puis je m'y perds un petit peu avec tout ce matériel.
Bah, globalement, il y a deux familles importantes. Bah, on va retrouver la lunette, style lunette de Galilée, on va retrouver les télescopes. Les modes de fonctionnement sont un petit peu différents, hein, puisque la lunette, on réfracte la lumière, ça passe à travers des lentilles. Et le télescope, ça reflète la lumière, on est sur des miroirs. Donc pour les débutants, les deux sont intéressants, puisque au point de vue prix, on est à peu près équivalent, on a des capacités d'observation qui sont à peu près équivalentes. Le problème, c'est, on retombe sur le problème technique des lentilles, c'est que dès qu'on va vouloir des diamètres un peu plus importants, immédiatement, les prix, ils vont vraiment s'enflammer très très vite. Donc, en fonction de ce qu'on a décidé de faire, on va prendre celle qui nous intéresse le plus. Quand on prend les lunettes, elles ont des qualités, elles ont des piquets d'image, donc une netteté d'image qui est vraiment très très intéressante. Le problème, c'est qu'on aura forcément des objets petits, à moins qu'on ait vraiment les moyens pour acheter une lunette d'un gros diamètre. Mais autrement, l'objet sera peut-être très bien détaillé, mais très petit. Alors, sur les sites de vente, quand vous regardez les instruments, vous avez toute une liste d'informations, etc., etc. Donc, il faut savoir décoder un petit peu les caractéristiques des instruments. Alors, par exemple, quand on parle de diamètre, c'est la taille de l'optique, tout simplement le diamètre de l'instrument. Quand on parle de la distance focale, c'est la longueur de l'instrument, globalement. C'est le chemin que va parcourir la lumière de l'entrée de l'instrument à l'œil de l'observateur. Et on va pouvoir avoir aussi présenté un rapport, le rapport de la focale sur le diamètre. Ça va simplement nous dire que l'instrument, il va être plus ou moins lumineux. Donc s'il est plus ou moins lumineux, forcément, un instrument qui est faiblement lumineux, donc qui ne récupère pas beaucoup de lumière, pour lui, ça va être beaucoup plus de travailler sur des objets très très lumineux, donc comme les planètes par exemple, parce qu'il ne va pas être performant pour aller regarder dans le fond du ciel une nébuleuse ou une petite galaxie lointaine, parce qu'il n'arrivera pas à la trouver. Et inversement, si on a ce rapport on a un instrument qui est très 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 lumineux, c'est-à-dire qu'il peut récupérer n'importe quel grain de poussière, dans ce cas-là, lui, il travaillera très très fort dans le ciel profond. Donc une petite nébuleuse qui se cache dans un petit coin du ciel, lui, il arrivera à la voir, quoi. Et après, il y a d'autres éléments qu'on va retrouver, c'est le pouvoir séparateur. En gros, ça donne la qualité, la possibilité de distinguer deux objets les uns à côté des autres. Donc c'est lié directement à la qualité de l'optique. Et le dernier, c'est le grossissement qui est soi-disant vanté sur les sites de vente. Mais globalement, le grossissement, on n'a pas besoin de grossir beaucoup pour faire des belles images. C'est pas la course à grossir le plus possible, parce que plus on va grossir, plus on va altérer la qualité de l'image. Donc l'intérêt, c'est de trouver l'équilibre, mais c'est un argument de vente qu'ils mettent en ligne au cas où.
Finalement, quel choix pour un astronome amateur? C'est la lunette, c'est le télescope, qu'est-ce qui est mieux?
Les deux. Les deux. Chaque élément, chaque instrument, il a ses qualités. Il a vraiment son mode de fonctionnement, il a vraiment ses qualités intrinsèques. Tout dépend de ce qu'on veut en faire. La lunette, si on commence par présenter la lunette, l'intérêt c'est que cette lunette, elle donne des images de qualité, de très bonne qualité. C'est pas super compliqué à fabriquer. C'est des objets qu'on peut retrouver à des prix en étant sur des diamètres un petit peu faibles. On est sur des prix qui sont largement abordables pour un débutant, donc c'est accessible. Pas trop de réglages à faire, On a un objet qui est un peu passe-partout, un objet qui peut faire du ciel, mais qui en même temps peut servir à regarder dans la montagne, ou faire de l'observation terrestre. Il n'y a pas vraiment de blocage là-dessus. Après, ce qui pourrait nous limiter un petit peu, c'est un objet qui est limité, parce qu'à moins d'avoir un gros diamètre pour faire de l'observation, on a une petite image, on a un petit élément qui est dans l'oculaire, donc qui n'est pas vraiment contrebalancé ce qu'on voit sur Internet, quoi. C'est-à-dire qu'avec une lunette, on est très souvent déçu de l'image qu'on va avoir. On pourra après retravailler, faire de l'astrophoto avec et faire ressortir un peu cette image, justement des qualités, grâce aux qualités qu'elle a, parce qu'elle a un piqué qui est vraiment de très bonne qualité. Mais en observation directe, on va vite arriver, à moins d'avoir un budget énorme, sur des limites, les limites d'observation. Donc la lunette, théoriquement, elle ne se dérègle pas. Maintenant, on a des lunettes qui sont... notre empilage de lentilles à l'intérieur, c'est dans un gaz inerte, donc l'humidité n'a pas de place dedans. Mais le problème, c'est qu'une lunette qui tombe, par exemple, Si on a un décollement des éléments optiques à l'intérieur, un amateur même éclairé n'a aucune capacité pour pouvoir réparer. C'est-à-dire que ça doit repartir en usine pour être retravaillé. Donc la lunette est intéressante, suivant ce qu'on veut faire. Si on regarde le télescope, lui, il a l'avantage qu'on peut avoir des diamètres relativement grands pour pas cher. L'idée, elle est là. C'est plus facile de fabriquer un télescope que de fabriquer une lunette. On peut avoir des télescopes qui sont abordables, qui font 200 mm, donc 20 cm de diamètre, qui sont largement abordables pour un amateur. Donc on a le même principe, c'est le principe Newton. Donc on va avoir un miroir primaire qui va être en fond et on aura un secondaire sur le côté ou sur l'arrière qui renverra la lumière en direction de l'oculaire. Donc c'est un bon compromis, c'est une bonne solution, ça se dérègle peut-être plus souvent que les autres, mais c'est beaucoup plus facile à régler que les autres. C'est-à-dire qu'un amateur peut régler un télescope de ce style-là. Donc c'est beaucoup plus simple. Et on peut aller pour des prix qui sont des prix abordables, on peut aller sur des diamètres qui font des 300 mm, des 400, des 500 mm, qui sont abordables pour des amateurs, mais c'est abordable.
C'est vrai que les prix, ça me paraissent plus intéressants, mais il y a plein de types différents, là.
Ah, le télescope, chacun y est allé de sa formule optique. Donc on va retrouver des grandes familles, on a parlé de la famille Newton par exemple. La famille Newton, c'est un tube tout simple avec un miroir au fond et puis un miroir primaire qui renvoie sur le côté, c'est un tube qui est ouvert. C'est le télescope, on va dire, très très simple, hein. Que ce soit Newton ou Dobson, c'est les mêmes principes, hein. C'est ces tubes qui sont ouverts. Donc le point fort, c'est que là on peut y aller sur les diamètres, parce que comme il n'y a pas beaucoup d'équipement à l'intérieur, les prix sont abordables. Donc ça c'est vraiment jouable. Il a un rapport F sur D qui est relativement court, donc un grand champ d'observation. Donc ça permet d'avoir vraiment cette qualité. Et puis les points faibles, ben c'est vrai que quand on le déplace, quand on le transporte très souvent, ça se dérègle un petit peu. Mais c'est relativement facile à régler avec un petit laser qu'on met dedans. Et puis on réaligne les miroirs, un petit coup de tournevis, et c'est bon, c'est parti, quoi. C'est pas du tout ce qu'on pourrait avoir sur les lunettes. Et après, on a d'autres types où là, c'est des optiques un peu plus compliquées où la lumière, elle fait plusieurs allers-retours dedans. C'est les types casse-grain, voilà, Schmidt casse-grain, etc. Eux, l'avantage, c'est qu'ils sont beaucoup plus compacts. Parce que pour la même focale, étant donné que la lumière fait plusieurs allers-retours, on peut avoir un instrument qui est plus compact, qui est facile à déplacer dans un coffre de voiture. Quand on va prendre un Newton de 300 mm, il va peut-être faire 1,80 m ou 1,90 m. C'est pas simple à déplacer, c'est pas simple ni confortable en observation, parce qu'il faut le petit tabouret, le petit truc pour... voilà. Donc c'est un peu plus compliqué. Et on est... Là par contre, on va aller sur des prix qui commencent un petit peu à monter, mais c'est des éléments qui sont très techniques, donc c'est valable aussi, hein. On peut avoir un 200 mm pour 1500, 2000 euros, on a un 200 mm en Schmidt casse-grain de bonne qualité, qui va un peu partout, qui peut faire du planétaire, du ciel profond, qui fait un peu de tout.
Alors comment on fait pour choisir dans tous ces types de télescopes, de lunettes, etc. là ?
Et bien, il y a un choix complet de tout ce qu'on peut trouver, le point important, c'est de se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire avec mon instrument. On a vu que les instruments, ils sont compétents dans certains domaines et mauvais dans l'autre. Ben, en fonction de ce qu'on a prévu de faire, de ce qu'on veut faire en observation du ciel, eh bien, on prendra l'instrument qui correspond le plus, qui est le plus efficace dans ce domaine-là. Et donc, on prendra l'option, soit lunettes, soit télescope, soit Newton ou casse-grain, ou etc. ou d'autres formules un peu plus compliquées. Mais on prendra en fonction de ce qu'on veut. Voilà. Il faut se poser les bonnes questions. C'est pas la peine de prendre un instrument de gros diamètre, même un Schmidt casse-grain où il faut être deux pour le porter et l'installer sur la monture. C'est pas utile, voilà. C'est pas vraiment important, quoi. Et puis, après, regardez ce qui est fourni avec, les différents éléments qui sont fournis avec. Est-ce que c'est fourni avec un GoTo, par exemple ? Donc le GoTo, rapidement, c'est le pilotage de notre monture, c'est un mini-ordinateur embarqué qui nous permet de gagner du temps. On n'est pas forcément obligé de connaître le ciel pour utiliser ça. Et puis il y a des nouveaux instruments qui apparaissent maintenant, c'est des instruments qui sont un peu hybrides, qui sont un mélange de télescopes ou de lunettes avec des caméras intégrées. C'est-à-dire qu'on peut les piloter à partir d'un smartphone et on récupère les images sur les smartphones. Bon, là, les prix sont, on va dire, entre 2-3 000 euros jusqu'à 6-7 000 euros pour des petits télescopes comme ça, quoi.
Je commence à y voir un petit peu plus clair. Mais en même temps, j'ai une question là qui me trotte dans la tête. Bah, si on grossit beaucoup avec ces instruments, et sachant que la Terre, elle tourne, eh bien, comment on fait pour que l'objet qu'on vise reste finalement toujours dans le champ de vision avec le télescope ?
Ben effectivement, la Terre tourne et l'objet va vite partir, on ne le verra plus dans notre oculaire. Donc la solution, notre appareil optique va être monté sur une monture, et cette monture, il faut qu'elle soit motorisée au minimum sur un axe pour contrer la rotation de la Terre. Et donc ce qui fait qu'une fois que notre monture sera bien installée, on déclenche les moteurs et elle suivra l'objet, à la limite sur 24 heures, on le retrouverait le lendemain dans l'oculaire et il n'aura pas bougé. Donc les montures, elles sont livrées, il y a tout type, de montures qui sont disponibles. Certaines équipées de GoTour, comme je viens d'en parler avant, d'autres pas équipées de GoTour. On a des montures qui sont des montures équatoriales. Donc la monture équatoriale, c'est une monture où on a un axe de rotation qui est dirigé vers l'étoile polaire. Ce qui fait que si on met un seul moteur, on contre la rotation de la Terre. On a d'autres montures qui sont des azimutales, où dans ce cas-là, elles travaillent sur l'horizon. Et donc hauteur et horizon, ça veut dire que pour suivre un objet, ce type de monture-là doit avoir deux moteurs. Une sur chaque axe pour réussir à faire le suivi correct de l'objet. Quoi. Et puis après, il faut regarder aussi, si on prend, au moment où on va prendre cette monture-là, voir le poids de l'instrument qu'on va mettre dessus. C'est-à-dire qu'il faut que la monture soit en capacité de supporter la totalité du poids de l'instrument qui va être dessus, sur lequel on va peut-être rajouter des oculaires, on va peut-être rajouter des appareils photo, on va peut-être rajouter d'autres éléments. Il faut que la monture elle puisse tenir tout ce poids. Quoi. Donc, une fois que le choix est fait, il faut franchir le pas et puis aller acheter son instrument. Il est livré avec des notices d'utilisation. Bon, il faut déjà connaître un petit peu le ciel pour comprendre ce qu'il nous explique dans la notice d'utilisation. Donc le plus simple, c'est vraiment d'essayer de se rapprocher des clubs d'astronomie. Il y en a dans toutes les régions, mais comme le nôtre, par exemple, à Mont-de-Marsan. Et puis, déjà, on peut vous guider sur le choix du matériel. Et puis après, vous expliquer comment il fonctionne. Et puis... vous montrer comment on fait pour le régler, comment on fait pour l'utiliser, voilà, et comment on programme la raquette par exemple, comment on met en station. Donc toutes ces petites techniques que vous pouvez trouver des informations sur internet, mais rapprochez-vous des clubs et puis comme ça va aller beaucoup plus vite quoi. Et après, même s'il y a de la technologie, même s'il y a tout ce qu'il faut, il faut quand même connaître un petit peu le ciel, parce que le jour où la technologie elle nous lâche, eh bien, on n'a aucun moyen de savoir pourquoi elle nous a lâchés, on n'a aucun moyen de pouvoir dépanner notre télescope. Donc voilà, je pense que maintenant, vous en connaissez assez, vous avez assez d'informations pour sélectionner votre petit cadeau que vous allez vous poser sous votre sapin, pour vous faire plaisir pendant de nombreuses années. Le choix du télescope qui va être fait, quand c'est des choix pour les enfants par exemple, prenez quand même un télescope qui est sérieux. Ne prenez pas les télescopes un petit peu, on va dire, jouets qui sont vendus, parce que ça va fonctionner, on va regarder la Lune, et ce sera tout. Et ça risque au contraire de dégoûter, parce qu'on ne voit rien avec. Donc plutôt que d'acheter ces petits jouets qui sont à 150 euros ou 100 euros, investissez, mettez 100 ou 150 euros de plus, et puis vous avez un télescope qui peut accompagner, ou qui peut vous accompagner, vous ou votre enfant, pendant 5, 6 ans ou 10 ans. Et il y a un marché de l'occasion qui fonctionne bien, puisqu'une fois qu'on pense être arrivé au bout de notre instrument, en règle générale, l'instrument il est vendu en occasion et on se rééquipe avec un instrument plus grand. Donc on peut aller, on peut prendre des instruments pour pas très cher de très bonne qualité. Donc la prochaine mission, on parlera de notre système solaire. Donc comme vous aurez acheté votre télescope, vous pourrez avec votre télescope explorer les objets qu'on va vous montrer. Donc on parlera de notre système planétaire, comment il s'est créé, de quoi il est composé, quels sont les éléments qui sont dedans, quels sont les corps qu'on va pouvoir trouver. Donc attachez vos ceintures, nous vous emmènerons dans un voyage interplanétaire. Bon ciel à tous et à toutes. C'était Les Landes et du Ciel, une émission proposée par l'Astroclub du Marsan. Nous vous donnerons rendez-vous le mois prochain. Retrouvez également cette émission dans les podcasts de Radio MDM.